Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes toujours heureux quand nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre sur la 93.5 dans cette émission Club de la Presse. 5 février 2005, 5 février 2025, il y a de cela 20 ans, jour pour jour, que l'ancien président, le général Gnassingbé Eyadema, est décédé. Vous vous souvenez, l'annonce a été faite par le premier ministre d'alors, Kofi Sama, à la télévision nationale. Il parlait d'une véritable catastrophe nationale en évoquant celui-là qui a passé 38 ans à la tête du pays. À 69 ans, le décès de Gnassingbé Eyadema a provoqué un bouleversement total à la tête du pays, ce qui a débouché sur des manifestations politiques engendrant des morts et des blessés. Quel souvenir avez-vous de l'ère Eyadema, le titre du père de la nation attribué au feu général lors du colloque animé le lundi dernier sur la mémoire de l'illustre personnage et est-il approprié? Nous répondrons à ces questions dans cette émission Club de la Presse spéciale, bien sûr, que nous animons alors sur la mémoire du feu président, le général Gnassingbé Eyadema. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde, la mise en ligne est assurée par Géraud Dakoucha. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga, près de Niamtougou, et puis Radio Koktouazi à Dapan. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères déjà en studio avec moi. Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Non, ça va, ça va. Je suis en forme.
Dieu merci. Estelle Koudzounou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
J'espère que vous allez bien aussi.
J'ai le souffle de vie.
Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est un plaisir pour moi.
Voilà, Isaïe Edo, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour auditeurs et auditrices de Canal FM.
J'espère que vous allez bien aussi.
Oui, ça va, on rend grâce à Dieu.
D'accord, Justin Nani ne me dira pas le contraire. Justin, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, ça va, ça va.
D'accord. Dieu merci.
D'accord. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
D'accord. Bonjour Gadiel Tognadi.
Pascal, bonjour. Bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM.
Vous allez bien?
Ça va.
D'accord. Dieu merci. Alors, si vous êtes là, ça veut dire que Santé Éducation est dans les kiosques ce matin. Et vous vous intéressez à un sujet justement très important, c'est l'AVC. Et vous écrivez AVC et repérer les signes et agir vite. Il est très important de repérer alors les signes de l'AVC et d'agir aussi très rapidement.
Absolument, parce que vous savez, les AVC, ce qu'on définit comme accident vasculaire cérébral ou bien cérébraux, ça dépend si on dit les AVC, c'est une pathologie qui plonge une personne dans une situation clinique. Ça veut dire la personne, on a besoin de l'amener en urgence à l'hôpital et de référence. Un hôpital de référence, parce que c'est là-bas qu'il y a le plateau technique qui puisse permettre de le prendre en charge. Mmh. Alors, les AVC, c'est... au Togo, la situation, elle est réelle. Hein. Vous savez, en 2022, les chiffres hospitaliers disent que 2000 cas ont été enregistrés et 1000 sont décédés. Donc, disons 50% de ces patients sont décédés. Et dans certaines formations sanitaires, les patients qui ont fait un AVC font pratiquement la moitié, 50% des personnes hospitalisées. Alors, c'est quoi les AVC? Comme on l'a dit, c'est une pathologie, mais elle est due à un certain nombre de phénomènes ou bien de facteurs ou bien de causes. Et dans la plupart des cas, c'est des facteurs ou bien des causes qu'on peut éviter. Hein? Bon, il y a un certain nombre de types d'AVC, on pourra lire ça dans l'article. Mais ces facteurs, d'abord, le premier, c'est l'hypertension artérielle. Hein, Pascal,
oui.
Au Togo, la dernière enquête STEP dit que, on va arrondir ça, on dit 27,5%, hein, donc disons près de 30%, parce que c'est une étude qui a été faite en 2021, nous sommes en 2025, donc disons 30% de Togolais sont des hypertendus. Alors l'hypertension, c'est le premier facteur, la première cause des AVC.
Mais c'est un chiffre qui doit inquiéter.
Ça inquiète, ça alarme. Et à côté de ça, on sait que aussi pratiquement 30% de Togolais sont en surpoids. Le surpoids aussi qui constitue un facteur. Et il y a aussi d'autres facteurs, vous savez, l'hygiène de vie, hein, la prise de l'alcool, le manque de sport, la gestion du stress et tout, donc tout cela rentre en jeu. Et le titre dit, il faut repérer les signes. Les signes, c'est très important, Pascal. Vous savez, il y a des gens qui commencent leur AVC quelques jours, quelques heures avant. Et vous allez voir que la personne a un trouble de langage. La personne a un trouble de langage. Donc, la parole ne sort pas bien. Ou bien, il y a une déformation au niveau de la bouche. Ou bien, la personne n'arrive pas à contrôler ses membres inférieurs ou bien supérieurs. La personne sent qu'une partie de son corps est en train d'échapper à son contrôle. Et il y en a qui ont de vives douleurs au niveau de la tête et tout et tout. Donc, quand on sent de tels signes et on n'a pas encore fait ce qu'on appelle les AVC, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait cette chute-là, il faut rapidement aller à l'hôpital. Donc, cet article, c'est pour nous tous, Pascal, parce que c'est le dossier de la semaine. C'est aller dans chaque ménage, parce qu'aujourd'hui, c'est des cas qui se répètent. Hein. Là, on parle sûrement qu'il y a eu déjà, c'est pas jusqu'à ce que je ne parte, sûrement qu'il y a eu un cas d'AVC au Togo quelque part. Donc, les personnes les plus indiquées, ce sont les hommes. Et on sait que au niveau des hommes...
Est-ce que ça veut dire que les hommes sont exposés plus que les femmes, c'est ça?
D'après des études, les hommes sont plus exposés à cette maladie. Donc... alerte aux hommes.
C'est quoi les facteurs ou la...
Non, mais peut-être que c'est au niveau de la constitution, au niveau, voilà, donc c'est plus les hommes qui font ce genre de... Ça ne veut pas dire que les femmes n'en font pas, vous voyez. Donc, mais plus d'hommes font les AVC d'après les études, donc alerte aux hommes. Et aujourd'hui, le message doit passer, c'est l'hypertension. C'est l'hygiène de vie, c'est la mauvaise alimentation. Vous savez, aujourd'hui, il y a des aliments, il y a des produits que nous avons sur le marché qui aggravent la santé des consommateurs. Dans un article où on a tout mis sur les AVC, les signes, les facteurs et tout, à lire. Très important.
Très important, Ali. Alors, vous intéressez toujours à l'AVC ou aux AVC et vous écrivez feu de corrosion lié, éviter l'hypertension. C'est ça?
Oui, parce que vous savez, aujourd'hui, la lutte au niveau de la santé publique, c'est les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires. Et l'hypertension est capitaine à ce niveau-là. Parce que, on vient de le dire, pratiquement 30% de Togolais sont des hypertendus. Et il faut que on prêche la prévention. Hein. Le corossolier, c'est une plante importante parce que plusieurs personnes, en tout cas, ont cette plante-là chez eux. La feuille, d'après plusieurs études hein, qui ont démontré que cette feuille est destinée à la santé cardiovasculaire, la protection du cœur, la santé au niveau des vaisseaux sanguins, donc la bonne circulation sanguine. Il y a rien de merveilleux pour prendre en charge sa santé cardiovasculaire. Donc c'est pour la prévention, hein, Pascal. Il y a une belle recette dans cet article, que ce soit une feuille, les feuilles vertes, ou bien que ce soit les feuilles séchées. La formule là, on peut l'utiliser pour faire un thé et se donner cette santé cardiovasculaire. Bien sûr, il y a d'autres facteurs auxquels on doit recourir, mais c'est un article aussi important que nous invitons les uns les autres à lire.
À lire, voilà, à la page 6. Je lis également cet article que je trouve très intéressant. Et son titre, bien sûr, c'est « Santé, longévité, 5 aliments clés ». Donc, on pourra vous nous proposer 5 aliments clés pour préserver notre santé et aussi avoir de longévité.
Oui, les aliments, Dieu a fait plusieurs aliments. Dieu a fait plusieurs aliments et tous ces aliments valent pour notre santé. Mais vous savez, il y a certains qui ont une valeur ajoutée par rapport à leur santé. Et dans cet article, nous avons sélectionné juste 5 que nous retrouvons chez nous, dans nos marchés, qu'on a même dans la cuisine, qu'on peut utiliser. Et parmi ces 5, il y a une plante qui se trouve dans plusieurs maisons, comme j'aime à le dire. Pour beaucoup, ça fait de l'ombre, ça fait de... Comment on appelle ça? De l'ombrage, ça fait de la fraîcheur. Le moringa. Le moringa, cette plante que beaucoup ignorent, mais c'est toute une richesse pour la santé, la longévité. Et il y a 4 autres plantes dans cet article que nous invitons les uns les autres à lire. C'est des plantes à consommer. Si vous faites une semaine, un mois, vous ne consommez pas ce genre de plantes, bon... ce n'est pas bien, Ce n'est pas bien. C'est des plantes qui sont là à côté de nous, qui fournissent beaucoup de nutriments pour notre santé. Il faut les consommer. Des détails dans cet article.
Et justement, des détails dans cet article. Autre article qui m'intéresse bien, bien que je ne suis pas femme, je suis homme, mais vous écrivez String, risque sur la santé intime de la femme. Est-ce que ça veut dire que quand le port alors du string aura vraiment des risques sur la santé intime de la femme?
Bon, je n'aimerais pas faire de commentaires par rapport à cet article-là. je laisse les femmes lire cet article. Dans cette parution, on a fait deux articles dans ce genre pour les femmes. Il y a les strings et puis il y a les talons hauts, là, ou bien les hauts talons.
Oui.
Ouais, donc, quels sont les risques pour la santé? Il faut lire. Il faut lire. Il y a des risques pour la santé.
Et il faut lire.
Il faut
en savoir plus. C'est très important. Merci beaucoup, Gadiel Tonadi, pour avoir le journal, le numéro 801. Ce matin, quelles sont les conditions et sur quel numéro nous pouvons vous appeler?
Nos partenaires, en tout cas pour nous appeler, c'est 96 14 97 97, le 91 79 47 07.
D'accord. Merci beaucoup, Gadiel Tonadi, d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir et vous passer une bonne journée. Chers confrères, nous revenons en plateau pour le débat. Je l'annonçais même d'ailleurs au début alors de cette émission que ce serait une émission spéciale, bien sûr, surtout que la journée, on connaît bien ce jour, le 5 février, et ça nous rappelle bien sûr la journée alors du 5 février 2005, et je le disais qu'il y a de cela 20 ans que le général Gnassingbé Eyadema est décédé. C'est vrai que cette émission, nous aurions voulu quand même que ça soit animé plus avec le comité scientifique du colloque international qui a été animé tout récemment, mais j'avoue que j'ai fait les démarches nécessaires, mais actuellement tout le comité se trouve à Accra, puisque nous savons que à Accra il y a cette cérémonie d'hommage au président Gnassingbé Eyadema. Donc, mais nous allons animer l'émission quand même avec les journalistes en studio ici. Nous allons parler, bien sûr, alors de certains journaux, puisque beaucoup de journaux sont revenus alors sur le sujet ce matin. Sylvestre Béni, vous écrivez à la une de votre journal La Manchette ce matin, 5 février 2005, 5 février 2025, premier chapitre, coup d'état militaire. Et vous écrivez également 20 ans après Gnassingbé Eyadema, quel bilan du président fort. Et également, un autre journal, c'est Le Bâtisseur. Le journal Le Bâtisseur qui écrit, et bien sûr à la une, 20 ans après sa disparition, Gnassingbé Eyadema renaît dans un colloque international. Autre journal, c'est La Dépêche, le journal La Dépêche qui écrit, bien sûr, 20 ans ou 20e anniversaire du décès du général Eyadema. Un colloque international retrace la vie du grand Tom. Et également, un autre journal, c'est bien La Nouvelle République, le journal La Nouvelle République qui écrit Nyasimbe Eyadema, l'homme, le président, le bâtisseur. 20 ans après, un héritage qui perdure. C'est ce que des journaux, il y a d'autres journaux bien sûr, mais c'est ce que c'est ce qu'on peut dire alors par rapport à ce qui est écrit par rapport au sujet ce matin. Sylvestre, c'est vrai que vous êtes revenu sur ce que vous avez appelé premier chapitre, un coup d'état militaire, mais d'abord moi je voudrais savoir cette journée du 5 février, comment vous l'avez vécu?
Non, écoutez, comme tout Togolais, moi, ce jour-là, je crois, je suivais le championnat français. À l'époque, la TVT reprenait le championnat français. Il y avait un match entre, je crois, Marseille et Angers ou quelque chose comme ça. Et patatras, le signal est parti. Et après, bon, c'est cette musique funèbre-là avec l'image donc du général Nyasimbe Eyadema qui apparaît. Et quelques minutes après, c'est le premier ministre d'alors, Kofi Samaa, qui donnait donc la nouvelle avec des thèmes bien choisis. Il parle donc de catastrophe nationale. Il parle donc de la disparition du général Nyasimbe Eyadema. Et la suite, il invitait donc les Togolais à préserver donc la paix. Ça passe en boucle, après quelques minutes, ça passe en boucle. Pour beaucoup, c'était comme si c'est de l'amusement parce que Eyadema ne pouvait pas décider, quoi. Il pouvait pas mourir.
Ça, il est immortel?
Oui, à l'époque, Eyadema était presque immortel. C'était l'homme le plus pouvoireux du Togo, si vous voulez. Donc, les gens peinaient véritablement. C'est-à-dire que les gens hésitaient, doutaient de l'information. Et jusque tard dans la soirée où on a vu donc l'armée qui fait allégeance à un jeune homme que beaucoup ne connaissaient pas à l'époque. Et l'armée qui dit maintenant on vous confie le pouvoir et désormais nous déclarons vous servir loyalement à partir de cet instant-là. Peut-être que c'est avec ce passage-là de l'armée qui commence véritablement à lever un peu le doute de certains. Bon, voilà, il y a des gens qui ne pouvaient pas être là et on va nommer quelqu'un d'autre président. C'est là où le doute commence donc à être quelque peu dissipé. Et la suite de l'événement, nous le connaissons. Donc nous avons quand même choisi ce matin de revenir sur tous ces éléments-là parce que Eyadema étant décédé donc d'une mort naturelle, c'était pas véritablement le hic à l'époque, mais je crois que le bémol ou l'erreur est venue véritablement donc des fats qui ont marché sur les tests constitutionnels du pays, parce que vous prenez les dispositions constitutionnelles à l'époque, si j'ai encore la mémoire fraîche, je crois que c'est l'article 65 qui parlait donc de la vacance du pouvoir. Et donc, tout était planifié par la loi fondamentale du pays, après le décès du président, qui doit prendre la relève pour la transition. Et la transition, une transition de 60 jours, tout est défini dans la constitution du pays. Mais c'est l'armée qui a une fois encore, comme en 1963, faussé le jeu démocratique. Et donc, le Togo a encore raté une occasion en or de faire sa mue politique et de connaître donc son envol démocratique. 20 ans après, je crois qu'il est de bon temps qu'on puisse revenir là-dessus parce
tout
que
à fait, on fera le bilan.
Je me dis qu'un peuple qui fait ignorer son passé est condamné donc à le revivre.
D'accord,
et donc parce que nous voulons plus revivre ce genre de situation, il faut véritablement en parler puisque même le chef de l'État Togolais là, depuis jamais ça sur la terre de nos aïeux. Parce que ça a entraîné donc des morts.
D'accord. Merci, Sylvestre. Nous reviendrons sur le bilan, bien sûr. C'est vrai que ce jour-là, d'aucuns disaient, des observateurs, bien sûr, disaient qu'il y a un grand vent qui a soufflé sur le pays. Et d'aucuns parlaient même d'ailleurs du grand baobab qui est tombé. Alors, finalement, est-ce que vous avez eu aussi cette impression le jour-là?
Alors, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais à Dapan. Je revenais des cours et on avait un cousin qui était un homme en uniforme à l'époque qui a fait un crochet à la maison. Et c'est au détour des discussions, j'ai écouté, le baobab vient de tomber. Bon, ça résonne encore dans ma tête comme si c'était hier. Mais je n'y ai pas accordé grande importance. Et après, la rumeur a commencé par s'enfler. Il semble que le président de la République, Gnassingbé Eyadema, est mort. Mais en l'absence d'informations officielles, ça se passait de bouche à oreille, mais on avait quand même le regard arrivé sur la TVT à l'époque, qui était la seule chaîne nationale qui émettait à Dapan. Donc nous avions l'attention focalisée là-dessus, jusqu'à ce que les chants funeste et funèbre ne commence. Donc là, on a senti véritablement qu'il y avait quelque chose la mauvaise information ou la rumeur devenait clameur. Mais à la déclaration de le grand baobab vient de tomber, j'avais entendu répondre aussi non, ce n'est pas possible. Pour confirmer en fait le fait que mon confrère vient de dire que les gens étaient à peu près dans le déni de la mort du président de la République d'alors. On pensait qu'à un moment il était immortel, vu son immensité et puis l'aura qu'il dégageait. On était dans plusieurs autres dimensions par rapport à cette information qui venait de but en blanc, puisqu'on n'avait même pas annoncé une question de santé, un souci de santé, rien ne présageait cette information-là. Donc, c'est arrivé brusquement, on avait vraiment du mal à y croire, jusqu'à ce que le premier ministre d'alors, Kofi Sama, n'apparaisse à l'écran avec son annonce, un grand malheur, une catastrophe vient de frapper le pays. Le président de la République, le général Eyadema, n'est plus, et qui a déclaré dans la foulée la fermeture des frontières terrestres, aériennes et tout. Mais sachant qu'à l'époque, le président de l'Assemblée nationale, Fambare Ouattara Nachaba, qui devait, selon les tests du pays, prendre les rênes du pouvoir, était à l'extérieur. Donc, on attendait de voir comment est-ce que les événements devaient se passer par la suite. Donc, jusqu'à ce qu'on ne voit apparaître aussi un cortège de militaires à l'écran, qui annonce en fait la transition et qui fait également allégeance, et la suite de l'histoire, on la connaît jusqu'alors. Mais en même temps, je me rappelle que ce jour-là, je ne sais pas si c'est moi seule qui ai fait la remarque, la nature même a exprimé une tristesse. D'un seul coup, on a vu le vent qui s'est arrêté, l'air ne passait plus, il y a de l'obscurité qui avait envahi la nature. On avait senti comme impression que la nature même manifester en fait cette mort-là ou cette perte-là du président de la République. Donc voilà en quelque sorte les souvenirs que je garde de ce 5 février 2005 avec le décès du président de la République.
Tout à fait. Alors Esaïe, oui mais c'est vrai, le premier ministre d'alors parlait justement alors de véritable catastrophe nationale. C'était le mot utilisé, et justement aujourd'hui quand vous lisez beaucoup d'articles sur le sujet, vous retrouverez toujours cette portion de phrase. Finalement, est-ce que pour vous aussi, vous avez eu l'impression qu'il y avait vraiment une catastrophe nationale?
Oui, je dirais que le premier ministre d'alors, Kofi Sama, avait raison de parler d'une catastrophe naturelle.
Non, nationale plutôt.
Nationale, bien sûr. Si on se réfère à tout ce qui a suivi l'événement et aussi à ce qu'on pensait du général Eyadema. Je me rappelle aussi quand la nouvelle est tombée, tout de suite les parents, parce que nous à l'époque on était encore adolescents, les parents nous interdisaient de sortir parce que tout de suite il y a la crainte qui a envahi tout le monde. On se dit ici et Adama, qui jusque-là paraissait comme immortel, est décédé, ce qui voudra dire que les choses vont mal se passer dans le pays. Donc on nous interdisait de sortir, et surtout quand on a vu après les militaires qui ont apparu sur les écrans pour justement annoncer la prise de pouvoir de celui que nous connaissons tous. Là encore, la peur a pris d'ampleur dans le cœur de nos parents, qui, cette fois-ci, l'interdiction était formelle. Vous ne sortez pas de la chambre, parce qu'on se disait, qu'est-ce qui va se passer si le général n'est plus là? Parce qu'à l'époque aussi, dans l'entendement de nos parents, à part le général et Adama, personne ne pouvait plus diriger le Togo, et voilà qu'il est décédé. Donc il y avait cette peur, qui pourra finalement diriger le Togo? Et quand on se réfère aussi à cette rivalité avec l'opposition, on se demandait, est-ce que l'opposition ne va pas forcer pour prendre dans l'immédiat le pouvoir? Donc si on fait quand on associe toutes ces pensées, là, il y a la peur qui envahissait nos parents. Maintenant, quand Kofi Sama parlait de catastrophe nationale, évidemment, c'était une catastrophe. Quand on sait qu'avec tout ce qui s'était passé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une préparation. On ne savait pas qui allait prendre le pouvoir au cas où le général décidait. Et ce qui est arrivé, ça a surpris tout le monde. Donc, c'était catastrophique.
Mais est-ce que la suite ne nous donnera pas, peut-être, enfin, ne va pas contredire ce que vous êtes en train de dire? Parce que c'était comme si tout était préparé.
Oui, ça a paru comme si tout était préparé, mais on sait, avec la pression de la communauté internationale qui a obligé entre-temps Florian Simbé à se retirer. Donc ça démontre quand même qu'il n'y avait pas de préparation. S'il n'y avait pas de préparation, on allait quand même trouver les moyens pour faire face à la communauté internationale, parce qu'on savait tous que le pouvoir ne se transmet pas de la sorte, de la manière dont ça a été fait à l'époque. Donc c'est pour ça, moi, je parlais d'impréparation. Il n'y avait pas de préparation, et ça s'est confirmé par la suite avec tout ce qu'on a vu après la réaction de la communauté internationale.
D'accord. Oui, Justin, c'est vrai que je suivais un dignitaire du pouvoir ou une personnalité alors de RPT d'alors et aujourd'hui d'UNIR, et qui disait tout récemment que Adama n'était pas un dictateur, mais il était plutôt un autoritaire. Et donc, c'est vrai, quand c'est le journaliste qui le posait alors la question, et justement il répondait comme cela, est-ce que à un moment donné, par rapport à ce deux mots, à ces deux concepts-là, est-ce qu'il y avait eu une confusion?
Il devait y avoir de confusion, parce que ce qu'il a déclaré, ça n'engage que lui. À chacun d'apprécier la façon dont le feu général a dirigé le Togo d'une main de fer. Depuis 38 ans, vous avez vu dans les dernières périodes avant son décès, et après, au moment où il faisait pratiquement 20 ans de pouvoir, donc en 87. Donc quand vous analysez, vous allez essayer à peu près de comprendre l'homme. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé après, je pense que le catastrophe naturelle dont a parlé Kofi Sama, c'est vrai, il a bien vu, il a annoncé, et ça s'est produit. Puisque tout ce qu'on a eu à vivre ce 5 février 2005, c'est vrai que personne ne le voyait venir. Pourquoi? C'est parce qu'on a créé un mythe autour de la personnalité Adama, quelqu'un qui ne tombe jamais malade, quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui dort rarement, et qui est pratiquement sur tous les fonds, quelqu'un qu'on présente que du point de vue mystique, il est intouchable, au point que au sein même des forces armées, personne ne pense peut-être à le détrôner. Et Nassis Joa, feu Nassis Joa, colonel, à son vivant, à tenter le sort qui lui est réservé. Donc ce mythe-là qu'on a créé autour de la personnalité a fait que même au niveau des familles, on pense que l'homme ne va jamais disparaître. Et le pourquoi ce jour-là, tel que les choses ont évolué avec le tour de passe-passe, et beaucoup s'interrogeaient sur l'avenir du Togo. Malheureusement, l'armée s'est encore invitée dans le débat politique du pays. Et cette armée-là, on l'avait vue le 13 janvier 1963, et cette armée-là, on l'a encore vue après, et après, Et avec la prise également du pouvoir du feu général Yadema, un 14 avril 1967. Donc, l'armée ne s'est jamais retirée de la vie politique. Et au jour d'aujourd'hui, l'armée est encore présente dans la vie politique du pays. La preuve en est que tous les soubresauts que le pays est connu, depuis 1967 jusqu'à 1987, où on parlait à l'époque de l'attaque du 23 septembre, la position qu'avait adoptée également la même armée, et que par après, la conférence nationale, la prise d'otages des hauts conseillers, bien avant même l'attaque sur la primature de Kofigo. Donc, ces éléments-là démontrent que l'armée n'a jamais quitté la vie politique et l'armée est là toujours pour soutenir le régime. Bon, c'est un régime dictatorial. Il n'y a plus d'autre appellation. Maintenant, si on trouve à dire autrement, ça s'est confirmé le 5. Parce que l'article 65, comme Sylvie Savu également le martelé tout à l'heure, les dispositions ont prévu qu'en cas de vacance de pouvoir, aucune modification de la Constitution n'est possible. Comment ça s'est passé que le chef de l'État, Fonia Sigbe, qui était ministre, quitte le rang de ministre pour être député, et député maintenant président de l'Assemblée nationale, ce tout de passe-passe-là, c'est confirmé par le coup d'État avec l'allégeance qu'a faite l'armée pour dire, voilà, qu'à partir de ce jour, c'est toi l'homme fort, vous allez terminer le mandat de votre président. C'est écrit où? Donc, c'est autant d'éléments qui confirment aujourd'hui que et tout ce qu'on a eu à vivre ce jour-là et la suite qui confirme également que ce pouvoir n'est pas prêt à passer la main démontre en suffisance que ce combat qui est mené contre un régime vieil de plus de 58 ans aujourd'hui a lieu quand même de mener des réflexions. Maintenant, par rapport à ce qui est concocté comme programme autour de 20 ans de disparition de feu Yadema général, Étienne. Je me pose la question, je m'interroge à savoir si véritablement c'est les 20 ans de disparition qu'on célèbre ou bien c'est les 20 ans de Fonia Sigbe au pouvoir qu'on célèbre avec tout ce qu'on observe là en grande pompe, avec les décorations tout et tout. Moi, je m'interroge sur ça. Mais quoi qu'on dise, il y a des marques quand même a fait peut-être un temps dans le pays. L'histoire retient que quelqu'un qui s'appelait Yadema et qui s'appelait Étienne et Yadema devenu Fonia Sigbe, Yadema par après a fait 38 ans du pouvoir. Et que par après, sa gestion, le pays qu'il a laissé, c'est un pays divisé économiquement, et un pays socialement aussi qui n'est pas au point que là où nous sommes, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
D'accord. Oui, mais voilà, nous sommes rejoints par Abassi Chakabas. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les confrères.
J'espère que vous allez bien.
On rend grâce.
Dieu merci, puisque c'est toujours commandant.
C'est toujours commandant.
D'accord, oui, mais Abbas, justement, je vais vous poser la question par rapport à la suite, même d'ailleurs de Justin, tout de suite. C'est vrai, Fonia Sigbe Yadema, c'est 38 ans au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand je parlais d'un dignitaire du pouvoir tout de suite, hein, qui a animé une émission, enfin, qui était dans une émission, je parlais de Monsieur Éric Badé, qui... justement, en le suivant dans l'émission, tout au long justement de l'émission, on a compris quand même qu'il était nostalgique alors de l'ère Yadema. Alors, si on veut faire vraiment un bilan de cette ère Yadema, qu'est-ce qu'on peut retenir, Abbas?
Bon, le bilan, ceux qui ont fait le colloque ont fait le bilan. Donc, quand on parle de la mort de Yadema, vous savez que ce n'est pas la première fois, le 5 février, qu'on avait annoncé sa mort. Un 23 septembre 2003, on avait annoncé, les rumeurs l'avaient annoncé mort, et parce qu'il était évacué pour un problème d'angine en Israël qui a été traité. Et finalement, quand il est revenu, il dit, les gens qui disent que je suis mort, ils vont me voir que je suis vivant. Donc, c'est là qu'il a demandé qu'on ne ferme plus les deux boulevards. Sur Yadema, quand lui quitte le camp pour aller à Lomé 2, que les gens sachent que lui est en train de passer. Et de l'autre côté, c'est comme ça, on a plus fermé les deux boulevards lorsque Yadema passe. Donc on laisse passer d'un côté, Yadema passe et de l'autre. Donc par la suite, après, on sentait que Yadema devenait faible. Il avait de la faiblesse dans son corps. C'était pas l'homme vigoureux auparavant dont on connaissait. Et puisque les gens disaient que Yadema c'est le dieu de la terre et que c'est un immortel, tout ça là, le 5 février, lorsque sa mort a été annoncée, on a annoncé la catastrophe nationale. Les gens ne croyait pas que Yadema aussi va mourir. Donc tout ceci-là a fait que tout se baratinait dans la tête des gens et finalement, tout le monde était dehors, on était même dehors au niveau d'Atikoumé là-bas. On ne savait même pas que quelque chose se passait. Et celle-là, on était en groupe, en journaliste même, en train de causer. Quand quelqu'un a appelé un de nos confrères pour dire que vous êtes à quel niveau, lui dit qu'on est à Atikoumé, il dit ah, rentrez vite, hein, parce que le général n'est plus. On lui a dit oh, c'est faux ça. Et finalement, nous tous, on a pris tout ce qu'on devait prendre là. Chacun a pris sa tangente, urgente, parce que quand on dit que quelqu'un comme Yadema est mort, on ne sait pas ce qui va se passer après.
C'est une catastrophe nationale.
Et finalement, on dit, après dans la soirée, après l'annonce faite par le ministre, le premier ministre Kofi Sama, on voit dans la soirée, plus tard dans la soirée, on voit que l'armée est venue faire allégeance au chef de l'État, à Fon Yassimbe, ou qui avait à ses côtés Pacha Yassimbe. Tous étaient là et on leur faisait allégeance en tant que chef de remplaçant de papa. Et ils disaient que c'est pour terminer le mandat de papa et Yadema.
Oh, c'est parce que la constitution avait dit.
Non, c'est pas c'est ce que j'ai dit, c'est ce que les gens ont dit.
Justement, donc, je comprends.
Oui. Que c'est pour terminer le mandat, puisque Yadema était élu en 2003. Donc, il devait finir son mandat en 2008. Et là, ça a commencé par causer des choses parce que le dauphin constitutionnel Ken Achaba, lui, il a pris cette situation de fait Yadema depuis sa maladie. Or, il était à Paris pour une mission. Il est revenu. Il devait revenir et il est passé par Cotonou.
Et puisque les frontières étaient fermées.
Il n'est pas passé. L'avion a été envoyé vers, puisque les frontières étaient fermées.
Il devait revenir à Lomé, mais il a été bloqué là.
Oui, voilà.
Il a été empêché de revenir.
Je pense que.
Il a été bloqué à Cotonou.
C'est parce que le coup d'État se s'opérait. On a fermé les frontières terrestres et aériennes. Mais maritime, voilà
ça a provoqué le jour là. Vous avez vu comment ça a provoqué la tension dans le pays avec les manifestations qui sont organisées pour demander et exiger le retour de Nachaba au pays pour prendre le pouvoir.
D'accord.
Parce que c'est lui qui devait constitutionnellement, qui est constitutionnellement le dauphin constitutionnel de Yadema. Donc ça a créé une tension très terrible où on a parlé de plusieurs morts avec les enquêtes qui s'en sont suivies. Donc finalement, on a vu que c'était un problème très sérieux. C'est devenu sérieux jusqu'à ce que les choses soient allées sur le plan international avec les négociations qui se sont ouvertes avec le président Olusegun Obasanjo, qui était en ce moment même le président en exercice de la CEDEAO, pour calmer les choses, mais et c'est ça qui a mené à ce qu'on réorganise les élections, qu'on refasse au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on prenne certaines situations et que ça a créé un peu de méli-mélo et de bouleversement.
D'accord, merci. Alors, oui, Sylvestre, je posais la question à Basse tout de suite concernant les 38 ans de Niasimbe Yadema. Qu'est-ce que vous retenez alors de ce règne?
Non, écoutez, j'ai retenu quand même un président qui a dirigé le pays d'une main de fer et sans partage pendant 38 ans. C'est vrai que lorsque vous prenez de 67, puisque Yadema a pris le pouvoir en réalité le 15 avril 67.
Le 14 avril 67.
Donc de 67 à 79, on a connu véritablement un règne un peu de fer difficile. C'était l'année de plomb où tout était véritablement fermé. Le robinet était véritablement fermé. Après, on a senti un peu, après le 90, par exemple, on a senti qu'il a voulu desserrer un peu le taux, parce qu'après le discours de la boule de juin 90, où François Mitterrand demandait à ses amis dictateurs africains de s'ouvrir un peu à la démocratie, on a vu qu'il a véritablement, il a essayé de baisser un peu la garde, puisque dans la foulée, on aura donc la conférence nationale de 91. Après, on aura le gouvernement de démocratique de Kofi Go et tout. Mais plus tard, c'est devenu véritablement coriace. Après, on a eu l'attentat de Soudou, on a eu les morts, le massacre d'Agbandi. Surtout ça, coïncidé avec la première mascarade présidentielle. Nous étions en août 93 et tout. Donc, plus tard, c'est encore refermé. Et donc, ça n'a véritablement pas marché. Bon, sur le plan économique, oui, bon, il a essayé ce qu'il pouvait, puisque si on compare un peu sa période à aujourd'hui, j'ai lu un peu sur les réseaux sociaux, non, j'ai lu sur un tricycle, là, où un jeune ami, et il y a des mentures nous manque. À l'époque, le maïs n'était pas à 1000.
Je l'ai vu aussi.
Voilà. Voilà. Bon, au moins à sa période, en ce qui concerne donc, tout cela, c'était pas maintenant. On voit un peu la manière dont son fils aussi dirige le pays et tout. Mais sur le plan politique, il a été véritablement dur. Il a été véritablement dur envers ses opposants. Et peut-être que je vais finir par là. Je disais sur une radio de la place en début donc de semaine que si on veut véritablement faire des un père, puisque beaucoup on a tendance donc à le nommer père de la nation du fait donc de cette commission de monsieur Robert Kazmi qui voulant couper la poire en deux, prend Sylvanus Olympio comme père de l'indépendance et Adema comme père de la nation. Normalement, il ne devait pas le faire parce que c'est vrai que c'est un homme de Dieu, il voulait aller à l'apaisement. Mais devant un homme donc de décision, il faut observer la fermeté pour ne pas tronquer l'histoire. Parce que lorsque vous allez au niveau donc du fronton du monument de l'indépendance, vous verrez, il est écrit, peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. Nous étions déjà en 1960. En 60, Adema n'était pas encore là. Peut-être qu'il était sur les théâtres en Afrique où il combattait même les nationalistes et les indépendantistes. Donc Adema n'est pas malheureusement le père de la nation. Il faudrait qu'on puisse le comprendre. Et j'essayais de dire que si on veut véritablement le faire père, on peut lui dire père de l'ouverture démocratique. Pourquoi je le dis pas père de la démocratie, hein? Il faut pas confondre les choses. On peut lui dire père de l'ouverture démocratique puisque il avait serré le robinet jusqu'en 90 et après le discours de la brûlée, il a essayé d'ouvrir un peu. Vous avez vu ce qui s'est passé à la conférence nationale en 91. Si Adema était Adema, mais il devait tout ce beau monde là devait être arrêté un beau matin tout ça. Mais il a laissé faire jusqu'à un moment donné. Donc, bon, il a voulu un peu ouvrir le champ politique, le jeu politique. Maintenant, ce qu'on tente de dire, père de la nation, je crois qu'il faudrait véritablement pas tronquer l'histoire pour qu'on puisse enseigner autre chose à nos enfants. Donc, voilà un peu ce que je retiens de l'homme.
D'accord.
Et puis, peut-être pour finir, là, je vais prendre la citation donc du ministre Trimois, parce que je vais tricher un peu ce matin, quand il disait que M. Foya Singbe a hérité d'un Togo socialement délabré, économiquement exsangue et puis politiquement divisé. Alors, donc, c'est les 38 ans donc, du règne du père qu'il a résumé donc, en quelques phrases. Donc, c'est ce qu'on pouvait peut-être noter aujourd'hui. Il a laissé un pays socialement délabré, économiquement exsangue et puis politiquement divisé.
D'accord. Voilà. Oui, mais c'est vrai que ces deux titres, c'est-à-dire père de la nation et père de l'indépendance, à un moment donné, cela a commencé par créer de polémiques, et surtout avec le colloque international animé tout récemment, c'était le lundi dernier, et les uns les autres se disaient, mais est-ce que Adema, c'était vraiment le père de la nation, ou on ne sait plus concrètement?
Oui, et cette terminologie pose problème au sein de l'opinion. Donc la dernière fois, la question a été clairement posée au cours du colloque et c'est professeur Bachana qui a essayé d'apporter une réponse en disant que c'était au cours d'un travail institué, je crois, en 2006, qu'un travail de réécriture et de réhabilitation de l'histoire, si j'ai bonne mémoire, c'est ce terme qu'il avait employé, et que les acteurs ont décidé de conférer le thème « père de la nation » à feu général et à Adema, et « père de l'indépendance » à Sylvanus Olympio. Donc, on peut dire que c'est des thèmes qui sont décrétés par rapport, et il a justifié en disant en fait que perdre l'indépendance parce que c'est sous Sylvanus Olympio que le Togo a accédé à l'indépendance et perdre la nation à cause des actions de paix, de tous les efforts que Adema a consenti pour faire régner en fait, pour instituer d'abord la nation togolaise et assurer la paix au Togo et dans la sous-région. Mais là aussi la question qui s'est posée, c'est la définition de la notion de la nation.
Tout à fait.
Est-ce que le Togo est une nation? Ça aussi, ça reste un débat. Quand on sait que la nation fait intervenir certains éléments principaux, à savoir un territoire, une population, une langue, d'autres y ajoutent les questions de religion, mais la notion n'est pas réductible à ces deux éléments, puisqu'on connaît des nations qui sont plurilingues, des nations qui regorgent plusieurs ethnies également, qui s'entendent. Mais aujourd'hui, quand on prend un peu le maillage du territoire togolais, est-ce que les ethnies, ça arrive vraiment à s'entendre? Il y a cet effort de brassage-là qui se fait. Il y a toujours des réticences. Quand on prend, en fait, la collaboration au niveau de certaines ethnies aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se le cache, dans la notion de nation même est à redéfinir et à voir également. Donc, pour revenir à la question, que ce soit père de la nation ou père de l'indépendance, si on s'appesantit sur le travail humain qui les a décrétés, pour moi, ça reste des appellations subjectives. Tout dépend de l'appréciation que chacun fait par rapport aux actions de chacun de ces deux personnes-là pour ces attributions. Du moment où c'est un groupe de personnes qui décrète, on dit bien que c'est dans une initiative de réécriture et de réhabilitation de l'histoire togolaise. On savait dire que ça, c'est un élément subjectif. Tout va de l'appréciation des uns ou des autres.
D'accord. Oui, mais Esaïe, si tant est que la notion même de la nation doit être redéfinie, ça veut dire que au fin fond, il ne doit pas y avoir un père de la nation pour le moment.
Non, moi, je pense que ce soit père de la nation ou père de l'indépendance, la question est de savoir qu'est-ce que nous gardons de ces deux personnalités et comment est-ce que nous les apprécions aujourd'hui ou encore comment est-ce que nous les célébrons aujourd'hui. Aujourd'hui, le père de la nation est tellement célébré. C'est d'ailleurs ce que nous voyons aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de cet anniversaire, le 20e bien sûr. Vous allez voir avec les organisations qui sont autour de cette célébration. Ça n'a jamais été le cas pour le père de l'indépendance. Or, la personne qui a décidé qu'on appelle l'un père de l'indépendance et l'autre père de la nation, c'est justement pour couper la poire en deux parties, mais pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais aujourd'hui, quand nous voyons un peu comment il y a tant d'engouement autour de la célébration de l'anniversaire, du décès d'ailleurs du père de la nation, ce qui n'a jamais été le cas pour le père de l'indépendance. Alors la question de savoir entre l'indépendance, comment nous sommes parvenus à l'indépendance et ce que Yacine Bey Adema a fait, à quoi est-ce que nous donnons de l'importance, la question est là-bas. Et justement, parlant du 20e anniversaire, je me pose aussi cette question. Finalement, est-ce que c'est le parti au pouvoir qui célèbre le 20e anniversaire ou c'est le peuple togolais qui célèbre cet anniversaire-là? Vous allez voir actuellement au niveau de sur la nationale numéro 1, au niveau de Kara, la voie est déviée parce qu'il y a un événement, une activité à Kara, justement la messe qui est prévue aujourd'hui. Et déjà la semaine passée, la Fédération togolaise de football a annulé ou disons à reporter les matchs qui sont prévus aujourd'hui, justement parce qu'il y a des activités commémoratives du 20e anniversaire. Ça, c'est là où ça pose le problème. Or, si ma mémoire est bonne, quand on donnait ces appellations à ces deux personnalités, c'est justement pour amener les Togolais à se réconcilier, à accepter ces deux personnes comme étant des personnalités phares du pays. Mais si l'importance est donnée à l'un et que l'autre est négligé, ça remet d'ailleurs en cause ce que la personne, Monseigneur Kazmi, qui justement voulait un apaisement, a opté pour ces appellations. Aujourd'hui, ça remet tout en cause. Ça remet justement en cause le travail que la CVJR avait fait à l'époque pour qu'il y ait la réconciliation. Si aujourd'hui on célèbre tant cet anniversaire de Yadema, or qu'on sait que pour Sylvanus Olympio, d'abord, ça dépouille mortel, il y a un problème autour de cela, ce n'est pas encore réglé, et qu'on donne tant d'importance à Yadema. Bon, je comprends quelque part, ça nous arrive quand vous perdez un être cher, c'est un devoir d'honorer sa mémoire, mais tel que c'est fait aujourd'hui, ça peut poser problème. Peut-être, si c'est pas aujourd'hui, peut-être plus tard. Bon, on le souhaite pas quand même.
D'accord. Mais Justin, est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures entre la célébration des deux personnalités, c'est-à-dire Sylvanus Olympio et le général Gnassingbé Eyadema?
Oui, certainement. Ça s'observe. Déjà le 13 janvier dernier, vous avez vu comment est-ce que cette date a été célébrée.
Et là même, le gouvernement n'a décrété aucun événement, activité.
Ouais, ouais. Donc, et ça laisse à désirer, vraiment. Et je dis que le problème du Togo est réel, qu'on ne se le cache pas. On fait semblant de vivre dans un pays où il y a la monnaie alors qu'il n'y a pas la monnaie. Ça, il faut le dire. Et il y a des mains, général Feu, et ce personnage-là qui a coupé la joie de vivre des Togolais. Une symphonie inachevée, je dirais même. Parce que le Togo qui sortait de l'indépendance, 3 ans, pratiquement, ou moins de 3 ans après, c'est ceux-là qui se sont battus au moment où lui, il était de l'autre côté, du côté des Français, pour mener le combat contre les nationalistes, que ce soit en Indochine ou au niveau de la guerre d'Algérie. Et à son retour, c'est lui qui, avec ses compagnons, ont mis fin à cette joie de vivre des Togolais. Donc, en commençant par l'assassinat même de Sylvanus Olympio. Je reviens également pour dire que la notion de, ou cette terminologie du père de la nation, on ne fait croire que Yadema est le père de la nation, je dis c'est faux. Il n'est pas le père de l'indépendance, il n'est pas non plus le père de la nation. Donc c'est quelqu'un qui s'est invité dans la vie politique du pays et qui a dirigé le Togo d'une main de fer. Qu'on le veuille ou non, c'est ça la réalité. Maintenant, les scientifiques ou les professeurs d'université qui sont aujourd'hui, qui en réalité devraient quand même jouer leur neutralité, se penchent sur le volet politique, se penchent sur un parti politique pour tronquer encore davantage l'histoire.
Mais est-ce que ce n'est pas un travail scientifique qui a été fait? Puisqu'on parle même d'ailleurs d'un comité scientifique pour ce colloque international.
Je dis non, c'est faux. Tout ce qu'ils ont présenté la fois dernière, je crois que s'il y a hommage à rendre à quelqu'un, à mon sens, la famille Gnassingbé est là et la famille Gnassingbé peut rendre l'hommage de 20 ans de disparition au feu général Eyadema.
Mais feu général Eyadema était aussi le président du Togo.
Mais on ne peut pas en faire une affaire comme on le voit. Avec tout ce qui est organisé autour, moi je me pose énormément de questions. Au moment où celui qui s'est également battu pour l'indépendance du Togo a été assassiné. Et qui, par ce tact-là, a divisé énormément les Togolais. Et au jour d'aujourd'hui, même si le Haut Conseil, Ashkoun, qui se bat pour la réconciliation. Maintenant, si à travers ces efforts-là qui sont faits et pour réconcilier les Togolais, et qu'on observe des actes qui sont posés pour diviser plus les Togolais, moi, je me pose énormément de questions.
D'accord.
Donc, c'est là où moi je dis que tout ce qu'on observe aujourd'hui par rapport à la vie du feu général Eyadema à la tête du Togo, 38 ans, à un moment donné, qui a pris également le désir de dire que ça ne doit plus continuer avec la notion de la démocratie, les soldats qui sont envoyés chez les hauts conseillers, qui ont été battus, l'attaque contre la primature, bien avant l'attaque contre la primature, l'attaque contre le gouvernorat. Le 1er octobre 1991, juste après l'élection de Maître Kwaku Kofigo comme Premier ministre, l'armée a attaqué le gouvernorat au niveau de l'hôtel 2 février. Le 8 également, même chose. N'eût été la détermination de la jeunesse togolaise à l'époque, dirigée par un certain Sosthène D'Souza qui se trouve aujourd'hui aux États-Unis, que je salue d'ailleurs au passage, qui ont mis fin à cette idée de rompre avec la transition. Mais par après, l'armée s'est également intervenue pour attaquer la primature, le 3 décembre 1991. Donc, c'est autant dire que Yadema, c'est quelqu'un qui n'a pas pensé de son vivant quitter le pouvoir. Et cette notion-là a été inculquée également dans la mémoire collective entre guillemets, de ces corps habillés, qui pensent que c'est Yadema qui a créé l'armée togolaise. À partir de ce moment-là, on doit toujours le faire à l'allégeance. Et la suite est que, dès son décès, tout ce que la Constitution togolaise a prévu a été violé, et en conséquence, l'armée a encore intervenu pour faire l'allégeance à son fils. Au jour d'aujourd'hui, c'est son fils qui est là. Les conditions dans lesquelles son fils est arrivé au pouvoir, avec des massacres qui occasionnés, qui par rapport aux rapports qui sont faits, plus de 500 morts selon et 1000 morts, également pour une autre commission, démontrent en suffisance que le parcours qui est en train d'être, c'est pas suivi, démontre en suffisance également que nous sommes en face d'un régime totalitaire, quoi qu'on dise aujourd'hui, qui n'est pas prêt à passer la main. La preuve, on nous impose également aujourd'hui une 5e République qui, en réalité, doit être donnée en termes de notion par la population. Ce n'est pas le cas.
D'accord. Oui, Abbas, quand on parle de 20 ans de décès alors de Yadema, c'est 20 ans de règne également de Faure Gnassingbé. Et aujourd'hui, c'est vrai, tel que le journal La Machette Sylvestre posait la question, 20 ans après Gnassingbé et Yadema, quel bilan du président Faure? On a le droit justement alors de se poser cette question, Abbas.
Faure est en train de faire aussi son truc pour qu'on fasse le bilan après. Pour le moment, on a fait le bilan de Yadema.
Nul n'est, mais peut-être qu'il a mis parcours.
Ouais, nul n'est parfait dans ce monde. Quel que soit le cas, on peut être traité de mauvais et de bien. Donc il y a plusieurs présidents qui sont venus aujourd'hui pour participer à cet événement, à cette cérémonie à Accra. Les présidents où Yadema était intervenu au Tchad, au Kounoudé, qui sont là dans le pays aujourd'hui, Yahi Boni et l'autre Soglo sont à Accra.
Soglo, bien sûr.
Ils sont tous là. Et puis, sur le plan au niveau du Togo, développement sociodex, c'est qu'on l'appelle Yadema l'homme de la paix et de dialogue. Et finalement, le plus important, là où il a bien. Et il s'est bien illustré, c'est sur le plan diplomatique, où il est intervenu pour les médiations.
Donc on parle de pacificateur.
Médiateur, pacificateur, tout ça là. Il est intervenu dans des choses depuis la péninsule guerre entre le Cameroun et le Nigeria, sur la péninsule de Bakassi. Il y a au niveau du Tchad, où Goukouni était, et son second qui se battait en rébellion, où il a traversé le fleuve Chari pour aller au moins mettre la paix en Côte d'Ivoire. Et puis, lors de ce colloque-là, c'est un Ivoirien, un ministre ivoirien qui est venu témoigner du fait comment Yadema était intervenu en 2002 dans leur guerre, lorsque la rébellion avec, Guillaume Soro avançait pour déloger Gbagbo, je crois que c'est ça. Donc, ils sont retrouvés ici pour trouver des solutions et qui a conduit à un accord en 2003. Donc, lui, il a donné tout ce que Yadema a fait au niveau de la Côte d'Ivoire là-bas. Et il y a quelqu'un au Congo aussi qui avait dit la même chose pour présenter sa souffrance. Donc, c'est des gens qui sont venus faire des témoignages sur le vécu et les actions de Yadema au plan diplomatique. Donc, on ne peut pas. Tout n'est pas rose. Dans ce monde, ce qui a été fait sur le plan, on l'a vu, mais ce qui a été fait sur le plan intérieur aussi, on l'a vu. Sylvestre parlait tantôt du prix du maïs, qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur son vélo,
en tricycle,
le maïs ne coûtait pas, parce qu'il y a des mois, en ce moment-là, il y avait en 1975, où on a parlé de la révolution verte. Cette révolution verte a fait qu'il a dit aux paysans, aux agriculteurs de ne plus payer les impôts. Ils sont exemptés des impôts. Et en ce moment, la révolution verte a fait ce que cette révolution devait faire. Et ça a donné à manger. Ça a fait que la nourriture, en ce moment, elle ne coûtait même pas cher. Les paysans se donnaient. On avait ce qu'on appelle Togo Grain, où en cas de difficulté, Adema donnait l'ordre de faire sortir le stockage qui était dans les magasins de Togo Grain. Aujourd'hui, on a pris ça pour remplacer par Ansat. Et cet Ansat-là, normalement, devait jouer le rôle de Togo Grain là, pour atténuer.
Toi, vous pensez que l'Ansat ne joue pas le rôle là?
Non, l'Ansat va chez les paysans, achète les produits. Quand il achète, il revient. Et ce que l'Ansat fait, au lieu de consacrer ça à la consommation nationale, vous avez vu que l'Ansat envoie ça à l'extérieur du pays.
D'accord.
Or, l'Ansat pouvait faire de telle sorte que lorsque nous manquons du maïs et le maïs coûte cher, on balance ça. Même l'Ansat balance, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aussi de l'abondance.
D'accord. Merci beaucoup, Abbas. Oui, mais Sylvestre, si Abbas trouve que ce n'est pas encore peut-être le moment alors de faire le bilan du président Faure Gnassingbé, et vous, est-ce que vous pensez quand même qu'il y a un bilan aujourd'hui en termes de gouvernance de Faure Gnassingbé pendant les 20 ans?
Non, je crois que Adema est parti. Ça fait 20 ans que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir. Et donc, il est de bon ton quand même qu'on fasse son bilan. C'est vrai qu'il est demain président, mais il est de bon 20 années de gestion d'un État. Je crois qu'il est donc plus c'est capitalissime qu'on fasse donc ce bilan de 20 années. Oui, regardez un peu ces discours, ces promesses. D'ailleurs, quand il est arrivé, il a annoncé les 20 plus. Prenons juste les 20 plus. Et posez-vous la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Vous prenez les 20 plus, le 20e point, ça concernait les médias. Il dit, non, on va protéger les médias, on va permettre à ce que les médias soient... Allez lire un peu les termes. Mais aujourd'hui, posez la question donc à tous les députés qui sont sur ce plateau-là, si ils sont... C'est la vieille rose chez toi. Donc voilà un peu. Vous prenez le point 10, je crois.
Et toi,
demandez à voir si la vieille rose chez Abbas.
Et toi.
Bon, chez moi, ça ne passe pas. Si on prend tout cela, on a parlé donc de la voix Lomé, la nation numéro 1. Mais ça fait 20 ans qu'il avait promis. Mais ça n'a jamais été fait. Si bien que la dernière fois même, on a été même obligé de bâtir la voie, l'autoroute de l'unité, alors que rien n'est encore fait. Voyez-vous, il y a tellement de choses dans les 20 plus. Et après, à chaque élection présidentielle, il promettait. Aujourd'hui, je crois qu'il est même plus important de faire le bilan parce qu'il n'y a plus de présidentielle. Parce que c'est à chaque présidentielle qu'il promettait. Maintenant, il n'y a plus de présidentielle. Donc, faisons le bilan. Des présidentielles que nous avions eues et toutes les promesses qu'il a faites.
D'accord.
Aujourd'hui, vous savez,
c'est une émission pour cela.
Effectivement, c'est pas ça, quoi. On va réserver. Dès que vous les voyez appeler tout à l'heure, ils vont vous dire les
faits. Justement, on leur donnera la parole, bien sûr, dans quelques instants. Et c'est vrai que tu as été interpellé entre toi, pas si veste. Je ne sais pas s'il y a déjà dans les 20 ans, il y a des acquis, il y a aussi des défis.
Oui, les défis, ça n'en manque pas. Les défis, ça n'en manque pas. Quand il a pris le pouvoir, là où le Togo était, le Togo n'est plus à ce niveau. Mais bon, les défis, il en reste toujours. Du moment où les populations interpellent toujours, du moment où les besoins se font sentir, je crois qu'il y a encore du travail à faire. Il faut retrousser les manches et satisfaire les besoins des populations.
D'accord. Oui, même question à vous, Esaïe. Oui. Défis également à qui?
Oui, les défis, ça reste toujours. Dans la vie, il y a toujours des défis à relever, surtout que le monde évolue. C'est normal qu'il y ait des défis. Maintenant, si on doit parler de bilan, je vous dirais tout de suite que c'est relatif. Certains vous diront que oui, que ça a avancé. Certains vous diront que non, ça n'a pas avancé. Et justement, quand on va commencer par sortir les chiffres, on vous dira qu'effectivement que ça a avancé. Mais s'il faut rentrer dans le quotidien des Togolais, on verra que la réponse sera le contraire. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est relatif. Toutefois, il est important qu'on fasse quand même le bilan.
D'accord.
20 ans, c'est énorme pour qu'on fasse un bilan.
Justement, 20 ans, c'est énorme pour qu'on fasse un bilan. Justin, vous avez aussi un bilan par rapport, un regard sur ce bilan?
Je pense que le moment viendra où on va faire le bilan.
Tout à fait, on verra toute une émission pour cela.
On va parler du bilan, mais seulement je fais observer que tel que ça s'est passé en 63, les Togolais sont tombés dans le gouffre. C'est la même chose qui s'est passée en 2005. Les Togolais sont aujourd'hui plongés dans le gouffre. Avec la gestion, avec tout ce qu'on observe aujourd'hui, on nous draine vers un parti unique. Et ce combat qui a été mené par les Togolais, aujourd'hui, malheureusement, c'est le constat auquel nous sommes face. Donc je pense que le moment viendra où on parlera également du bilan. Vous prenez les 20+, comme Sylvain Savia le dit. On nous a promis, comme moi je suis sportif, j'aime trop le sport, la construction des stades, des holdings, de basketball, quoi. Aujourd'hui, aucun stade n'est construit. 20 ans.
D'accord. Merci. On aura le temps.
C'est pas sérieux.
Oui, on aura le temps de faire le bilan. Tel que vous l'avez si bien dit. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent aussi à rentrer en ligne pour participer à cette émission. Et effectivement, nous l'avons si bien dit que c'est une émission spéciale que nous avons animée, surtout que l'actualité oblige. Et donc, nous avons animé cette émission alors sur la disparition de du général Niasingbe Yadema. On a parlé un peu de tout et de rien alors là-dedans, mais nous serons intéressés également d'écouter nos auditeurs sur le sujet. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir, aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et nous écrire également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
Oui, Nyamavo, chef.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien, chef.
Allez-y.
Oui, nous allons respecter avec moi que c'est demain. Quoi qu'on dise, c'est un être vivant, une cité, un père, on doit respecter ça maintenant. Cependant, on ne va pas, avec sa mémoire, et faire du Twitter de toute le Togolais. Son histoire, on nous a appris qu'il a fait un coup d'État, et c'est le premier coup d'État en Afrique. Et si on l'appelait père des coups d'État. Puisque, selon la définition de la nation, comme vous le dites, il faut définir la nation. Est-ce que tous les Togolais se sentent impliqués dans la gestion du pays aujourd'hui? Est-ce que tous les Togolais sentent qu'ils partagent les mêmes intérêts? On a seulement le même territoire, mais occupé par une même personne. Alors peut-être qu'on célèbre cela pour montrer que oui, qui nous a pris le pouvoir, on a gâché ça en famille, on gère. Et qui, on dit bon, on nous a pris à l'école, un riche laboureur a appelé ses enfants. Et que c'est fort seulement qu'on a appelé. Et que Pacha n'a pas envie d'être au pouvoir. Et les autres. Et c'est donc dans la famille, tout le monde est content d'abord. Avant de parler de faire de la nation. Hein? Donc, il faut qu'on respecte la mémoire de la personne que de jouer au Vita, au peuple togolais. Et je vous renvoie, peut-être le dimanche, on va se retrouver avec Haïté, qui va nous dire clairement ce que le passé du Togo. Bien vu que, au Togo, la politique a fait que nos universitaires ne sont plus intelligents, c'est seulement le terme. Par rapport au bord politique, on a des problèmes. Les mêmes personnes qui ont fait le droit, ils sont divergents dans l'explication des mots. Qu'est-ce qu'ils donnent aux enfants aujourd'hui? Voilà pourquoi on souffre, quoi. Bonne émission.
D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur Nyamavo. Bonjour, les amis. Vous savez, Sylvanus Olympio est le père de l'indépendance et de la nation. Pour ce qui concerne le général Yadema, il est le père du Togo nouveau. C'est ce qu'on peut dire. Vous savez, actuellement, ce n'est pas le problème des Togolais à faire de ce qui est qui. Et c'est Dieu qui est fort. Je dis coucou à Estelle. Et bonne émission. C'est monsieur Nyamako. Allô?
Allô.
Bonjour, oui, madame ici.
Je salue mon père Piqué. Voilà, je vous dis bonjour à vous tous là-bas. Et la petite de Togo. En 63, il y a eu un coup de sang sanglant. Et d'après un frère prof d'université, il paraît que Kennedy aurait s'exclamé. Le Togo est mort, le Togo est foutu, je crois, un truc comme ça. Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup aimé ce coup d'état. Peut-être que c'est resté vite des renseignements qui l'ont fait sous son dos. Bon, voilà. Et maintenant, ça a été permanent. Coup d'état permanent. Jusqu'à aujourd'hui, là. On a déchiré notre constitution carrément. Pourquoi il y a des gens qui vont mourir? Au bout de 41 ans, moi je le calcule à partir de 63. 41 ans, il nous a gouverné barabara comme ça, et puis on va nous installer son fils. Et les Togolais ne vont pas vouloir, ils vont tirer par son thème. Pourquoi il... Et puis lui-même nous a promis les réformes démocratiques en 2008. Après APG 2015, son mandat était fini, on serait bien, on serait heureux. Vraiment. Et maintenant, il refuse l'alternance et la démocratie. Jusqu'à brûler la constitution pour en faire, pour la gestion du pouvoir et l'argent, simplement. C'est pas normal. Les élus ont démissionné. Les élus, ils ont été à l'école. Et le pays les a formés pour le défendre en cas de danger. Le pays est là, en danger depuis 60 ans, 62 ans. Et ils ont baissé les bras et ils se cachent aujourd'hui.
D'accord. Merci, madame Essi, pour votre intervention. Bonjour, Pascal. On ne peut pas occulter les apports du président Yadema et du président Sylvanus Olympio. Et la vie n'était pas tout à fait rose à l'époque de Sylvanus, surtout à la population du nord du Togo. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, je pense qu'on doit arrêter de diaboliser l'un au profit de l'autre. Et bonne émission, c'est Cyril qui nous écoute depuis le Canada. Et, allô? Allô, bonjour. Pascal. Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va et vous?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu. C'est Patrick?
C'est le commandant, oui. Abadou Saka.
Non, mais il y a déjà notre commandant ici.
Non. Le vrai commandant, le premier, c'est Sass. C'est le deuxième.
Ah bon? Sass a pris de grade, hein? Peut-être il est général maintenant.
Ah bon?
Ah oui.
D'accord. Alors, je salue les autres au plateau aussi là-bas.
D'accord.
Bon, monsieur Pascal.
Oui, Patrick.
C'est vrai d'en débattre, hein, affaire de paix de nation, paix de l'indépendance, tout ça là, c'est bien beau. Mais franchement, sans vous mentir, je ne vois pas à quoi est-ce que ce sujet peut apporter un plus à ce que nous souffrons, à ce que nous débattons, à ce que nous subissons présentement comme la vie chère. Donc, moi, affaire de paix de nation, c'est bien beau, mais si le talent, c'est pour dire au départ, c'est vrai d'en débattre. Mais moi, je pensais que par ce temps-là, si au moins quelque chose qu'on peut en tirer pour que notre vie soit un peu plus améliorée au cours de ces dernières années, ça serait bien que dans pas du revoir parce que ça l'a pu apporter encore un plus, quoi. Attendez, je vais vous dire aussi quelque chose. Actuellement, il y a un grand problème qui arrive, mais nous, spécialement africains, on semble dormir là-dessus. Quel est ce grand problème? Le retrait, je sais que vous me permettez, bien sûr, vous n'avez pas débattu de cela, mais...
Effectivement.
Le retrait des États-Unis de l'OMS, c'est un grand problème qui arrive. Imaginons une pandémie à l'heure actuelle, à l'extrême où nous parlons. Les financements vont sortir d'où? On doit y penser. Notre médecine traditionnelle, comment faire pour faire d'éventuelles réponses contre une pandémie quelconque? C'est des problèmes qui, vraiment, à l'heure, que de dire père de la nation, père de la... Le président est déjà mort. Il est dans un autre monde. Je ne vois pas quoi.
D'accord, d'accord. Merci Patrick. Il y a Gérard Amenoudi qui nous suit sur notre page Facebook. Bonjour à tous. En temps normal, si on était dans un pays sérieux et démocratique, 20 ans après la mort d'un président, on ne devrait pas en faire tout un tapage. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons sont plus importants. Laissez les mots tranquilles. C'est Gérard Amenoudi qui nous écrit, bien sûr, et qui nous suit sur notre page Facebook 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Votre nom, s'il vous plaît?
C'est Sylvain.
Ah, Sylvain. Allez-y.
Bon, moi, je voudrais dire, personne n'est éternel. On savait qu'un jour, Étienne va partir. On grandit et un jour, on s'en va. Et puis on parle de l'air et à demain. Il y a une vieille qui me disait l'autre fois ce qui l'a marqué. C'est que ce monsieur, il n'a jamais voulu que ses enfants aient la faim. Le jour que le maïs débordait, le prix débordait, c'est lui-même qui a envoyé les militaires vendre le maïs à leur place. C'est une vieille qui me dit ça. Les militaires ont tenu le bol pour vendre le maïs à leur place, à prix voulu par les Étienne et Adem. Alors que aujourd'hui, quand on dit on a fait, on s'en fout, ça ne dit rien à personne. Donc, franchement, il faut qu'on revoie la politique au Togo.
D'accord. Merci beaucoup, Sylvain. Je pense que Sylvain, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce mercredi. C'est qu'on ferait, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission. Sylvain, est-ce que vous avez écouté les uns les autres se prononcer? Votre réaction?
Non, je crois que toute la semaine depuis, presque deux semaines, un tour tourne autour de perte de la nation, perdre de l'indépendance. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons des défis plus sérieux que ça. Franchement, économiquement, le pays est sur les rotules. Ça, il faut le dire, parce que tout le monde est... C'est un fait. Et c'est indéniable. Tout le monde... Les gens ont faim. Tout le monde a faim, y compris moi. Donc, il faudrait qu'on pense véritablement à la République pour redresser l'économie nationale et que les Togolais puissent souffler un peu, parce que on a tendance à croire que nous sommes dans un Togo où certains sont immensément riches et ceux qui sont riches deviennent insolemment riches et nous qui sommes pauvres, nous devenons de plus en plus pauvres, quoi. C'est-à-dire que c'est deux extrêmes, quoi. Ceux qui sont riches deviennent un peu plus riches et c'est eux qui sont encore là, ils sont là, c'est eux qui sont toujours là. J'ai vu, on a même décoré certains qui sont là, que le père avait décoré entre-temps, mais c'est eux qui sont là. Et puis ceux qui n'ont rien, il continue à ne rien avoir, quoi. Voilà, c'est ce désespoir-là qu'on a dans un pays et que vous appelez même nation. Donc, il faut changer véritablement de paradigme pour changer les choses.
D'accord, quoi. Merci, voilà. Sylvestre. Estelle?
Oui, j'ai écouté les uns les autres pour leur avis, hein, pour la richesse des débats et tout.
Et vous n'avez pas l'habitude alors de commenter les commentaires alors des...
Je m'abstiens, mais je salue tous les auditeurs quand même. Mais comme on l'a dit de manière générale, ça fait 20 ans que le général Yadema est mort et en même temps 20 ans que le président Fonia Singbe est au pouvoir. Les populations réclament toujours des choses, vivement que les oreilles entendent et que des réponses concrètes soient apportées aux préoccupations des populations.
D'accord. Isaïe?
Oui, je crois qu'on a parlé des défis quand on parlait du bilan de Fonia Singbe, et quand il s'agit de défis, ça a fait appel également à des investissements dans des actions concrètes. Et justement, ça m'amène à poser cette question. C'est avec quel budget aujourd'hui on organise cette célébration, les 20 ans de Yadema. Maintenant, si c'est sur le budget de l'État, je crois qu'il serait quand même intéressant que ça soit investi dans le concret, parce que la réalité est là, les Togolais. Enfin, nous le disons toujours, les Togolais, enfin, c'est une réalité. Donc, il est quand même important que quand il y a de ces manifestations, qu'on pense quand même à la réalité que vivent les populations. C'est
D'accord.
très important.
D'accord. Justin?
Oui, j'ai écouté les uns et les autres. Je reviens également pour m'interroger sur ce qui est célébré.
Est-ce que c'est les 20 ans de la disparition du feu général Yadema qui est célébré, ou les 20 ans du pouvoir de Foy Nassibé qui est célébré en grand pompe de l'autre côté à Kara? Et je vois là que c'est plutôt les 20 ans de Foy Nassibé avec les décorations, ceux qui ont contribué à maintenir le régime.
Donc finalement, vous avez la réponse à votre question.
Oui, finalement, j'ai la réponse. D'accord. Parce que les interventions des uns et des autres m'ont montré. Voilà. Donc c'est les 20 ans de Foy Nassibé au pouvoir, avec la décoration également, ceux-là qui ont contribué énormément pour le maintien du système de régime depuis là jusqu'à présent, et qui l'ont aidé également aujourd'hui à passer les 20 ans à la tête du pays. Mais ce qui est fondamental, et lorsque vous gouvernez un pays et vous n'avez pas l'adhésion populaire, vous tirez les conclusions. Les conclusions, c'est de passer la main, faire en sorte qu'il y ait l'alternance pour que le pays puisse quand même évoluer.
D'accord. Abbas ?
Non, pas grand-chose à dire. Seulement, je veux dire que mon commandant second a marché sur ma langue, parce que lorsque les gens sèment la polémique entre père de la nation et père de l'indépendance, qu'est-ce que ça apporte aux Togolais? Est-ce que c'est ça qui va faire manger les Togolais? On a autre chose qu'à faire que de faire sortir des communiqués ou bien de faire des déclarations pour dire tel est père de l'indépendance.
Mais parce, est-ce que ça ne fait pas animer le débat?
Ça fait animer le débat. Est-ce que ce débat-là vous fait manger? Ça vous fait manger? Ça fait animer le débat. Le débat est là. Mais les Togolais crient qu'ils ont fait. Le débat est là, on l'a animé. Père de l'indépendance, père de la nation. Est-ce que les deux pères là, quand on dit père de l'indépendance, vont nous donner à manger? Aujourd'hui, quand les gens crient que nous avons fait.
Finalement, les deux pères n'existent même plus.
Voilà. Donc il fallait qu'on oublie cette histoire de père de la nation, père de l'indépendance. Et ça là, Sylvestre l'a soulevé, c'est une commission dirigée même par un certain Casimir,
Robert
Casimir, oui. Et au sein de laquelle se trouvait ben Gilles-Christ Olympio.
Oui, oui.
Et
il y avait
Aristide Covidien. Donc c'est des sages qui étaient dedans, qui ont fait cette appellation. Donc cette appellation ne vient pas d'un régime comme, mais c'est cette commission-là qui a semé cette polémique, et les gens continuent par l'entretenir.
Au nom de la réconciliation.
Au nom de la réconciliation. Mais je ne pense pas que ça peut encore donner lieu à des polémiques, parce que, comme tout le monde le dit maintenant, c'est qu'on a besoin
d'autres défis
à relever.
D'accord.
Que de se concentrer, de se cantonner sur cette histoire.
Sur cette terminologie. Merci beaucoup Abbas Issaka. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Moyen Libéré. Sylvestre Béni, merci d'être passé dans cette émission.
C'est
vous
moi.
Êtes le directeur de publication du journal La Machette. Estelle Koudonou, merci d'être passé aussi dans cette émission. Directrice de publication alors du journal Gazelle Info. Merci d'être passé.
Oui,
merci à Esaïe Edo d'être passé dans cette émission. Esaïe, vous êtes le rédacteur en chef du journal Focus Info. Merci d'être passé. Merci Justin Anani. Vous collaborez avec beaucoup de médias et vous êtes également Radio RTDS. Merci d'être passé alors dans cette émission. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelé pour votre contribution également dans cette émission. Merci à vous. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Gérard Akoucha. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.